RMC, 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 7h10, c'est RMC, le retour du week-end des experts et c'est les animaux comme chaque dimanche avec notre veto qui sait forcément.
Le veto, hein.
Oui, c'est Laetitia Barlerin. Laetitia qui est là jusqu'à 8h et puis juste après ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile avec l'essai de la Toyota Prius 4 rechargeable. Pourquoi faut-il mettre de l'eau distillée dans la batterie? Tiens, voilà, un petit peu de chimie tout à l'heure avec Jean-Luc. Et puis en deuxième partie, on évoquera le diesel. Est-ce que c'est la fin du diesel? C'est vrai qu'il y a eu pas mal de polémiques autour de ce carburant, notamment en termes de pollution. On en parlera tout à l'heure avec Jean-Luc. Laetitia, invité exceptionnel dans quelques minutes, puisque Luc Jacquet, le réalisateur du film L'Empereur, sera avec nous au téléphone.
Exactement, son film L'Empereur sort mercredi sur les écrans, et c'est l'histoire du manchot empereur. Vous vous souvenez la marche de l'empereur,
justement. Un magnifique succès.
Qui a été oscarisé il y a 12 ans. Donc nous en parlerons avec lui, et on parlera de l'Antarctique, bien sûr.
Voilà, on parlera aussi de la Saint-Valentin, aux zoos, et aussi un sondage qui a été réalisé par Wamiz à l'occasion de cette Saint-Valentin. Mais pour débuter donc, Maître Xavier Baquet est avec nous.
Mais oui.
Alors je ne sais pas
longtemps.
Si on va parler de Saint-Valentin avec Maître Xavier Baquet.
Oh, un petit peu.
Un petit peu.
Un petit peu.
Oui.
Bonjour Maître.
C'est une vieille histoire.
Bonjour.
Bonjour.
Ça va Xavier?
Depuis toutes ces années.
Très heureux de vous retrouver.
Quel bonheur de vous avoir. Alors l'actualité est quand même chargée pour vous. Allez, on va commencer quand même par une affaire qui a scandalisé l'opinion publique et c'est vrai. Il y a une semaine, 13 chevaux ont été retrouvés morts de soif en Mayenne.
Oui.
Ils avaient été abandonnés dans un pré et les auges étaient gelés en raison de la météo. 60 autres chevaux ont pu être sauvés et la plupart ont été d'ailleurs pris en charge par la Fondation 30 millions d'amis.
Oui.
Alors d'un point de vue juridique, pour quel délit est poursuivi le propriétaire de ces chevaux et que risque-t-il?
Alors, d'un point de vue juridique, ça tombe sous le coup de l'article 521.1 alinéa 9 du Code pénal, qui est le délit d'abandon. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on délaisse ces animaux sur le long terme, on passe de l'infraction de mauvais traitement à celle d'abandon.
C'est du pénal, là.
C'est du pénal.
Ah oui.
C'est du pénal, c'est 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende.
Et est-ce qu'on peut rajouter de la maltraitance?
Non, parce que l'abandon, c'est en fin de compte un acte de maltraitance aggravé.
D'accord.
Et alors nous, ce que nous plaidons tout le temps, parce que c'est ça qui nous importe, c'est que l'interdiction définitive de détenir des animaux soit prononcée pour éviter que ce genre de délit ne se reproduise et que ce monsieur ne puisse plus détenir d'animaux, être propriétaire d'animaux et notamment d'équidés. Parce que, pour vous donner une idée, actuellement la Fondation 30 millions d'amis détient sous sa protection environ 400 chevaux.
Waouh.
Oui.
Ça vous donne l'ampleur.
Qui ont été saisis.
En fin de compte, la fondation, si on accumule les chevaux de la fondation, les chevaux de la fondation 30 millions d'amis et ceux détenus par la fondation Bardot, nous sommes les plus importants haras de France.
C'est dingue, ça.
Et tous ces animaux ont été bien sûr maltraités, ont été saisis par la justice.
Bien sûr. Donc, si vous voulez, c'est pas anodin. Ça va en s'aggravant parce que là, vous me parlez de la Mayenne, mais depuis lors, on a à nouveau saisi d'autres chevaux dans un autre endroit. Alors pas 60, un petit peu moins, mais c'était équivalent. Donc, on s'aperçoit que ce genre de choses se répète et se répète simplement parce que, il y a une crise économique et que avoir un cheval, ça coûte de l'argent. Je veux dire, donc
c'est pas exceptionnel, c'est-à-dire a des cas comme ça, plusieurs cas d'abandon des chevaux qui sont livrés à eux-mêmes dans des prés, personne s'en occupe.
Oui, tout à fait, donc c'est pas exceptionnel. Avant ça l'était, depuis 2 ou 3 ans ça ne l'est plus. Voilà. D'où la raison pour laquelle nous nous retrouvons, je vous dis, avec 400 chevaux. Il n'y a aucun haras en France qui a 400 chevaux.
Non, c'est sûr. Mais quand vous dites que ce que vous demandez, c'est que il n'ait plus l'autorisation de posséder des animaux, enfin surtout des chevaux.
Oui.
J'ai vu qu'il y avait certains tribunaux qui l'avaient prononcé pour d'autres cas de maltraitance, mais qui ne l'empêche de prendre un autre cheval? Parce qu'il n'y a pas de contrôle.
Alors le contrôle s'effectue souvent par nous-mêmes, c'est-à-dire que ce sont nos enquêteurs que l'on mandate, à qui on va dire écoutez, allez sur place, vérifiez, voir ce qui se passe. Alors c'est vrai que si la personne déménage, c'est plus compliqué, mais le contrôle de facto par les autorités, ben, il est compliqué, ben, vous le savez bien, parce que les DDCSPP, donc ce qu'on appelle les directions vétérinaires, on manque de personnel, hein, et j'espère pour elles qu'on réduira pas leur effectif.
Et est-ce qu'elles ont les dossiers de toutes ces personnes? C'est ça aussi.
On leur signale, on leur signale, mais c'est vrai que ce sont des contrôles, j'ai envie de dire, aléatoires, et que, mais bon, c'est tout de même une sanction qui est là, si vous voulez. Alors après, la faire respecter, ben, c'est comme toute sanction, c'est compliqué dans, sur le terrain, mais ça a au moins le mérite d'exister.
Alors que vont devenir ces chevaux qui ont survécu et qui ont été saisis? Alors, et confiés à la Fondation?
Eh bien, pour l'instant, donc, ils sont saisis sous l'application de l'article 99-1, effectivement, du code de procédure pénale, donc qui fait que la Fondation en est le gardien temporaire pour l'instant. On attend la décision de justice. Quand on va plaider ce dossier, on va demander que la confiscation des chevaux soit confirmée par le juge. Et quand la confiscation des chevaux sont confirmées, la Fondation en devient le légal détenteur et propriétaire. Et bien, ils resteront au sein de la Fondation.
On peut les adopter?
Comment?
On peut les adopter?
Alors, on peut en mettre en adoption, certains, effectivement. Alors, je ne vous cache pas que c'est de plus en plus rare, parce que, ben, pareil, hein, trouver une famille qui prenne un cheval en adoption, eh ben, il faut avoir un budget en face. Mais même dans les cas d'adoption, la Fondation conserve toujours la carte de propriété, enfin, est propriétaire sur le papier. C'est-à-dire que on veut se donner le droit de pouvoir récupérer l'animal pour éviter, justement, de repartir dans un processus de mauvais traitement.
Alors, en pratique, si on voit dans un pré des chevaux qui ont l'air d'être abandonnés, sans nourriture, sans soins, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut pas rentrer dans le pré, prendre le cheval et partir avec, c'est sûr.
Non, évidemment pas. Donc ce qu'il faut faire, c'est aller voir les forces de gendarmerie. Souvent, quand on est en campagne, c'est les forces de gendarmerie, pour que elles puissent se rendre sur place et vérifier si effectivement comment les choses se déroulent, et alerter les services vétérinaires. La direction départementale de services vétérinaires
et éventuellement la fondation ou d'autres associations.
Et en même temps, donc, une fondation de protection animale, bien souvent c'est les trois plus importantes, hein, qui ont affaire sur le dossier, parce que ce sont des gros animaux, donc c'est pour ça que la fondation 30 millions d'amis est souvent sur le pont avec ce genre de dossier.
Alors, autre actualité.
Propose, Maître Laetitia, c'est qu'on évoque cette autre actualité dans un instant sur RMC.
Avec plaisir.
Maître, vous avez peut-être le temps de vous prendre un petit expresso, vraiment tout petit, et on revient, d'accord?
Merci.
Je vous en prie. À tout de suite, 32-16.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est pratiquement 7h20, c'est RMC, c'est le week-end des experts, et c'est les animaux. Et notez que tout à l'heure, ça sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Et dans 10 minutes, la météo et les infos. Toujours Maître Xavier Baquet, avocat à la Fondation 30 millions d'amis, qui est avec nous, Laetitia.
Voilà, et nous parlons de l'actualité juridique. Alors, figurez-vous qu'aux États-Unis, l'Alaska est devenu le premier État à prendre en compte les droits des animaux dans le cas de divorce.
Ah oui.
C'est-à-dire que le juge pourra aussi se prononcer sur la garde du chien et du chat, un petit peu comme les enfants, et dire, bah voilà, telle personne garde le chien. Est-ce que c'est la même chose en France, Xavier?
Alors, en France, oui et non. Oui, parce que, comme vous savez, il y a différents types de divorces. Donc, dans le cadre d'un divorce par consentement mutuel, surtout depuis la nouvelle procédure qui est en cours depuis octobre.
Qui se veut simplifier, en fait, c'est ça?
Ce sont les parties elles-mêmes qui décident de la rédaction de la convention de divorce. Donc, les parties, dans le cadre de la rédaction de la convention de divorce, peuvent, dans cette convention, prendre des dispositions qui concernent leurs animaux, leur animal, leur chien, leur chat, voire même mettre un droit de garde de l'animal de l'un vers l'autre, à tour de rôle.
La garde partagée, c'est ça?
Oui, tout à fait.
Oui. Et ça arrive, je le vois régulièrement.
Oui, bien sûr. Donc, les parties, comme c'est un contrat bilatéral, le contrat devenant la loi des parties, peuvent faire, et ça va être de plus en plus, parce que maintenant, avec cette nouvelle procédure de consentement mutuel, on ne passera plus devant le juge, justement. Ça va être homologué par les notaires et rédigé par les avocats.
Mais là, c'est si on s'entend. Et si on ne s'entend pas?
Si on va devant le juge maintenant, eh bien, j'ai envie de vous dire, c'est la bonne volonté du juge. Parce que le droit français ne permet pas, pour l'instant, de faire ce que fait ce droit que vous avez cité.
En Alaska.
Mais il y a certains juges, et moi ça m'est arrivé dans les dossiers, qui vont aller au-delà, c'est-à-dire qu'ils vont considérer que, certes, l'animal reste malgré tout toujours un bien meuble, malgré la modification de l'article, enfin l'ajout de l'article 515-14 du Code civil, hein, grâce d'ailleurs, je rappelle, à la Fondation Panthéon d'Amis qui a vraiment milité pour ça. Et donc les juges vont aller au-delà et vont dire, bah oui, c'est certes un bien meuble, mais un bien meuble très particulier, parce que c'est un être vivant, doux et de sensibilité, et donc ils vont statuer. Mais faisant ça, ils vont être ce qu'on appelle contra legem, c'est-à-dire au-delà de la loi. Mmh. Et ils vont le faire, et tant que c'est pas contesté, et ben ça va devenir la loi des partis. Donc c'est malgré tout possible. D'accord. Même si la loi ne permet pas stricto sensus.
Maître, nous avons Ruben au téléphone qui a une question pour vous justement sur ce sujet.
Oui.
Ruben, bonjour.
Oui, bonjour.
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 Bienvenue Ruben sur RMC. Oui, ça va très bien.
Voilà, donc nous avons une consultation juridique pour vous.
Très
voilà.
Bien. Bonjour.
Voilà.
On vous écoute.
Écoutez, j'ai un chien, un bulldog français.
Oui.
Voilà, jusqu'à maintenant, il a été toujours chez moi. Et je viens de, on va dire, j'ai été paxé jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a un an.
Oui.
Voilà, et puis jusqu'à maintenant, c'est moi qui m'en ai occupé. Et j'ai voulu faire le changement de propriétaire au niveau de l'ICAD. Et l'ICAD me refuse le papier, on va dire.
C'est-à-dire que vous avez un bulldog, vous êtes séparé de votre conjointe, et voilà. C'est elle qui a gardé le bulldog, c'est ça?
Non, c'est moi qui l'ai gardé.
C'est vous qui l'avez gardé.
Voilà.
Et les papiers sont à son nom, c'est ça?
Exactement.
C'est elle qui l'avait acquis, en fait, c'est ça?
Non, on l'a acquis tous les deux.
Mais oui, je pense que quand vous avez fait la carte pour la carte d'identification, ils font un nom et voilà, vous avez mis le nom de.
Voilà, c'est ça. C'est elle qui l'a fait. Et jusqu'à maintenant, je voulais récupérer en fait le bulldog. C'est moi qui est nourri pendant un an.
Ouais. Ah oui, mais ça, Xavier, c'est vrai que c'est.
Qu'est-ce qu'il faut faire, la mère?
Oui, parce que quand monsieur achète un chien pour madame, il met le chien à son nom, mais c'est madame qui s'en occupe. Et lors de divorce, c'est vrai que normalement, les papiers sont au nom de monsieur, ouais. Et c'est monsieur qui doit le prendre, même s'il s'en est jamais occupé.
Alors, dans le cas,
oui, non, mais je donne un exemple à Ruben. Hein.
Dans le cas de Ruben, ce qui se passe, c'est qu'il a mis la carte dite de propriété, mais qui n'est en fait pas un titre de propriété, hein, c'est une carte d'immatriculation, du chien directement au nom de son ex-compagne. Bon. Donc, effectivement, pour pouvoir changer le nom, il faut l'accord de l'ex-compagne. Nonobstant le fait que ce soit lui qui ait toujours tout payé. Alors c'est ça qui est très 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 ambigu, parce que comme cette fameuse carte n'est pas un titre de propriété, la notion de propriétaire pour un bien, et ça reste malgré tout un bien, se déduit du comportement.
Et plus maintenant avec les nouvelles lois.
Si, parce que l'animal reste soumis au régime. C'est plus un bien en tant que tel, mais il reste soumis au régime des biens. Si vous lisez bien l'article 515-14 du Code civil, la définition, c'est l'animal est un être vivant doué de sensibilité et qui, en tant que tel, est soumis au régime des biens. Bon, donc ça veut dire que pour que vous soyez clairement le propriétaire, il faut une présomption de choses, l'entretien, le vétérinaire, qui achète la nourriture, etc. Bon, ça c'est un fait. Mais par rapport à l'ICAD, ce qui leur importe, c'est qu'il y ait une autorisation de votre ex-compagne pour vous permettre de changer de propriétaire. Donc moi, j'ai un conseil.
Exactement. Oui. Et qu'elle veut pas me le faire.
Mmh. Alors ça, c'est un peu plus gênant. Bon, alors maintenant, faut peut-être reprendre le dialogue avec elle. Lui envoyer un courrier avocat, c'est un peu dur peut-être, mais au moins lui faire comprendre les choses, que ça sert à rien de se venger sur le chien, parce qu'en fin de compte, c'est ça.
Bien sûr, c'est lui qui trinque. Hein.
Voilà, donc c'est le chien qui va trinquer, il n'y a pas d'enfant, c'est le chien. Donc faut lui faire revenir aux choses. Et puis sinon, monsieur, j'ai envie de vous dire, vous êtes un propriétaire de bonne foi, vous avez l'animal. Bon, voilà, ou alors...
Le problème, c'est que si le chien se perd, on va appeler et qu'il est retrouvé par la fourrière.
Il va être pucé, ce chien-là.
Voilà. Et ils vont appeler...
Il y a une possibilité, c'est à saisir le juge de proximité. juge de proximité pour lui faire établir que c'est vous qui êtes le réel propriétaire du chien, nonobstant le fait qu'elle ait rempli qu'elle ait son nom sur la carte. Et le juge prendra une décision. C'est une procédure assez simple. Vous allez devant le tribunal, au greffe du tribunal d'instance de votre là où vous habitez, et puis vous faites une saisine, ce qu'on est donc du juge, pour pouvoir juger ce sujet-là.
Très bien. Voilà. Alors, pour finir, Xavier, puisque c'est la Saint-Valentin,
oui.
C'est une dernière affaire qui peut prêter à sourire quand même. Hein. Ça s'est passé dans le Puy-de-Dôme. Mmh. Le propriétaire d'une chienne, saillie par le chien du voisin, ça arrive, demande réparation au propriétaire du chien. Parce que en plus, la chienne a dû subir, lors de sa mise bas, une césarienne. Alors, peut-on porter plainte contre le chien du voisin?
Est-ce que le propriétaire du mâle est responsable, en quelque sorte?
Bah, oui, la réponse est oui.
C'est dingue, ça.
C'est-à-dire, on peut, par exemple, je peux porter plainte contre le propriétaire du chien qui a déshonoré ma chienne.
C'est pas vraiment porter plainte. C'est-à-dire que le chien en question s'est échappé. Si on devait remettre ça sur le plan, humain, on va dire que le chien aurait violé la chienne, hein, parce qu'on peut, on pourrait parler d'un viol. Ça n'existe pas, je vous rassure, j'extrapole, mais dans l'objet, c'est la même chose. Là, en l'occurrence, le chien s'est échappé. Donc, il engage la responsabilité de son maître, de son propriétaire, qui n'a pas été assez vigilant et qui ne l'a pas gardé en bon père de famille. D'accord ?
Oui.
S'échappant, il va chez un tiers et il va causer un dégât chez ce tiers qui est le fait que, la chienne de ce tiers va devoir mettre bas avec césarienne, donc il y a un dégât. Bon.
C'est comme s'il cassait quelque chose chez un voisin, en fait, c'est ça ?
Exactement.
D'accord.
Et il y a bien un lien de causalité entre l'événement causal, le fait de s'échapper, la saillie et les dégâts, parce que la césarienne résulte de la mise bas. Mmh. Et donc, le propriétaire de la chienne victime va se retourner contre l'autre d'un point de vue civil, je précise bien, civil, pour avoir réparation du dommage.
D'accord.
Alors moi, je serai le propriétaire du chien, je peux dire que la chienne est venue voir mon chien.
Ah, bien sûr.
Et je peux aussi dire, mais est-ce que les petits sont vraiment de mon chien ?
On
peut faire des tests.
On peut faire des tests, analyses ADN aussi. Hein.
On peut faire des tests.
D'accord. Mais c'est intéressant de voir que finalement, c'est le propriétaire du chien.
Pour le peu que le propriétaire du chien en question soit aussi propriétaire d'une grande chaîne hôtelière, vous imaginez la pension que vous allez avoir.
Ah oui, on peut demander la pension aussi pour les petits.
Merci maître. Merci beaucoup maître Xavier Baquet.
Merci beaucoup.
Bonne journée à vous.
Bonne journée. Avocat à la Fondation 30 millions d'amis.
Bon dimanche.
On va revenir dans un instant, Laetitia, après la météo et les infos, et on va découvrir l'Empereur dans les salles mercredi, et le réalisateur de ce film, Luc Jacquet, sera avec nous. À tout de suite, on revient après la météo et les infos.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook Vos animaux sur RMC.
Laetitia Barlerin, attention, la petite question flash du dimanche matin. Vous êtes prête ?
Je suis prête.
En moins de 2 minutes, vous vous engagez maintenant à répondre à la question de Lily. Je vais avoir un bébé, nous dit Lily. Mon chien Max, un cocker, n'aura plus le droit de venir dans notre chambre à sa naissance. Pour une question d'hygiène. Comment lui faire accepter cela ?
Attendez, c'est vous qui décidez.
Oui. Voilà.
D'abord.
Voilà.
C'est nous les chefs. On va pas demander la permission au chien de lui interdire une pièce.
Mais l'intitulé de la question dit donc. Ça veut dire qu'à mon avis, c'est plutôt lui qui fait la pluie et le beau temps à la maison.
Ce que vous allez faire, Lily, c'est que vous allez le faire dès aujourd'hui. Vous allez lui interdire cette pièce de l'appartement, la chambre donc, dès aujourd'hui. Alors, ça veut dire quoi ? Ça veut dire porte fermée quand vous n'êtes pas là. Hein ? Et puis quand vous êtes là, c'est dès qu'il rentre dans la pièce, c'est non, sors. Éventuellement, vous pouvez même mettre une barrière, vous savez, les barrières pour enfants. Mmh. Mais il faut, de toute façon, il va très vite comprendre qu'il ne faut plus qu'il passe cette porte-là. Il restera devant la porte, il ne passera pas. Mais bien sûr, il faut aussi qu'il ait son coin à lui, ce chien. C'est-à-dire que si vous aviez un couffin dans cette chambre, ce couffin, vous allez le mettre dans une autre pièce de l'appartement, dans un coin. Ça sera son coin à lui qui doit être au calme. Par exemple, dans un coin du salon, ça c'est très bien. Il faudra pas aller l'embêter dans son panier qui doit être confortable avec ses jouets, etc. Et c'est à vous de respecter ce coin-là, ce panier-là du chien. Très important aussi, Lily, puisque vous allez avoir un enfant et vous inquiétez un petit peu de l'hygiène. Donc, bien sûr, faites attention, il ne doit pas débarbouiller l'enfant et puis il ne doit pas lécher les jouets, il faudra les nettoyer. Et puis surtout, vermifugez votre chien tous les 3 mois. Très important, parce qu'il y a certains vers intestinaux qui peuvent être transmis au bébé. Et sinon, tout va bien se passer. Et dès aujourd'hui, interdisez-lui cette chambre.
RMC, c'est au 32-16.
45 centimes la minute.
Et au 7-32-16.
65 centimes par envoi, plus prix du SMS.
RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Encore merci d'être avec nous sur RMC en ce dimanche matin. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous dédié aux animaux que nous vous proposons tous les dimanches entre 6h et 8h avec notre vétérinaire Laetitia Barlerin. Ensuite, je serai aux côtés de Jean-Luc Moreau pour l'automobile. Tout à l'heure, Laetitia, on va parler de Saint-Valentin. Pas mal, vous allez voir, on vous réserve quelques petites surprises, et notamment un sondage qu'a effectué le site dédié aux animaux, Wamiz. Laetitia, notre invité est Luc Jacquet, on va parler avec lui de son dernier film, L'Empereur, mais avant de retrouver Luc Jacquet au téléphone, voici un extrait de la bande-annonce de ce film.
C'est l'histoire d'une vie d'autant plus extraordinaire qu'elle s'est déroulée dans un pays si hostile qu'aucun d'entre nous ne pourrait y survivre plus de quelques heures. L'empereur est né il y a 40 ans, dans un endroit qui s'appelle l'Oamok, une petite baie nichée entre 4 îles perdues au bord de l'Antarctique. En douceur, mais avec un peu de persuasion, l'empereur avait réussi à convaincre son petit de rester seul. Mais ce n'était pas facile à admettre pour ce poussin qui ne comprenait pas ce brutal changement d'habitude.
Avec la voix, évidemment, de Lambert Wilson, Laetitia.
Oui, on l'a reconnu et nous sommes avec Luc Jacquet, bien sûr, le réalisateur de L'Empereur. Luc, bonjour.
Bonjour Luc.
Bonjour, merci d'être à nouveau avec nous parce qu'on vous a reçu régulièrement pour vos films où, bien sûr, il y a des animaux. Alors, il y a 12 ans, vous avez reçu justement, presque jour pour jour d'ailleurs, pour la sortie de La Marche de l'Empereur, qui vous a valu quand même différentes récompenses, dont un Oscar à Hollywood. Aujourd'hui sort L'Empereur, qui est une nouvelle fois consacré au manchot empereur. Alors pourquoi un nouveau film sur cet oiseau qui vit en Antarctique, il faut le préciser?
C'est vrai que ça faisait longtemps que j'essayais de passer cette frustration, de dire qu'on n'avait pas du tout été dans le milieu océanique, qui est finalement plus de la moitié de la vie de l'empereur. On n'avait pas les moyens à l'époque humains de descendre aussi profond. Et puis, c'est vrai qu'on était parti avec des caméras Super 16, on était parti avec des moyens un peu frustres.
Mmh. À l'époque.
à l'époque. Et du coup, voilà, on est parti là avec une équipe de 11 personnes, 5 plongeurs. On est allé là où personne n'était encore allé en Antarctique pour aller justement découvrir ce monde carrément étonnant qui est le monde sous-marin antarctique. On est descendu à 70 mètres sous la surface avec eux, c'est une première mondiale. Et c'est vrai qu'on a vu, des paysages sous-marins absolument somptueux, extrêmement colorés, extrêmement riches, et surtout l'empereur dans son royaume, si j'ose dire, où vous allez voir un animal qui, au lieu d'être une créature pesante, comme ça, devient une espèce de concentré de technologie naturelle, c'est assez somptueux.
Et ça vous a donné envie de refaire un film sur cet oiseau formidable?
Oui, et puis j'avais aussi, moi, envie de me reconfronter à ce sujet avec l'expérience que j'avais, c'est-à-dire vraiment arriver avec ce pari un peu fou qui était de, est-ce que je peux arriver à raconter le destin d'un individu et le filmer comme un acteur, avec la grammaire du cinéma, avec le champ contre champ, avec le par-dessus l'épaule, avec tous ces codes finalement de langage du cinéma, pour qu'on arrive à suivre l'histoire d'un individu. Moi, j'ai rencontré des individus que j'avais déjà rencontrés en 1991 là-bas. Et c'est vrai que c'est assez phénoménal de se dire que les animaux puissent vivre plus de 40 ans.
Ah oui.
Et j'ai voulu me poser la question de qu'est-ce qui fait qu'un individu va tenir le coup et va pouvoir éventuellement transmettre cette histoire à son poussin.
On les reconnaît facilement, ces animaux, c'est-à-dire que vous avez pu retrouver des individus que vous avez vus donc il y a en 91.
Ils se ressemblent tous quand même.
Ils se ressemblent tous à l'œil. Ils sont absolument impossibles à reconnaître d'une certaine manière. C'est les biologistes qui leur mettent des petites bagues sous-cutanées qui nous disent il est né tel jour. On connaît très précisément leurs allers-retours, leur cycle de vie, leur succès reproducteur tous les ans. Donc non, ça c'est vraiment la science. Enfin, je serais tenté de dire comme d'habitude, je vais chercher dans la connaissance, dans le savoir, des éléments qui me permettent de raconter cette histoire.
Mais qu'est-ce qui vous a le plus fasciné chez cet oiseau, la première fois que vous l'avez approché? Est-ce que c'est ce côté humain? Parce qu'il a un côté humain, cet oiseau.
dans sa démarche assurément, dans son obstination à vivre là où plus personne ne vit, dans sa façon de partager les soins parentaux, dans sa tendresse, je ne veux pas appeler ça autrement, dans cette capacité que les couples vont passer énormément de temps à se rassurer, à danser ensemble, à se synchroniser pour être sur un même pied. C'est vrai que c'est une espèce qui, pour beaucoup de ces comportements clés, finalement, évoque effectivement des choses qui nous parlent à nous en tant que langage, finalement.
Bah c'est vrai qu'il reste stoïque face aux épreuves. Et on a des épreuves hein, sur la banquise. Il reste vraiment stoïque face au blizzard. C'est incroyable, parce qu'on a beaucoup de respect pour cet oiseau quand on le regarde.
Ouais, je pense que le mot respect est vraiment le mot qui s'adapte. Vous savez, rien que sur la dimension de la plongée. Les plongeurs partaient, ils avaient 90 kilos de matériel sur le dos. Il leur fallait 15 heures par jour pour arriver à faire une plongée. Et à côté de ça, on avait les empereurs qui se jetaient à l'eau, tout simplement, qui ressortaient, qui repartaient. Ils ont une espèce d'amplitude comme ça, complètement folle, entre les abysses où ils sont capables d'aller jusqu'à 600 mètres de profondeur, 20 minutes d'apnée, jusqu'à ces marathons incroyables qu'ils sont capables de faire sur la banquise au milieu du Pisa. Non, c'est vrai que le mot respect, là, est quelque chose qui s'impose si on compare l'espèce à nos fragilités, à nous d'êtres humains qui ne sommes pas du tout adaptés pour ces climats-là.
Alors justement, vous avez utilisé des techniques qui ont évolué hein, depuis 12 ans. Hein. J'imagine que vous n'avez pas les mêmes techniques aujourd'hui.
Et sans doute aussi plus de moyens, non?
Plus de moyens. Qu'est-ce que vous avez utilisé comme technique dans ce film que vous n'avez pas utilisé il y a 12 ans? Alors je sais qu'il y a beaucoup de scènes inédites sous l'eau.
Oui, bah, pas beaucoup plus de moyens malheureusement, parce que ça a été une expédition qui a été extrêmement compliquée à monter. Ça a été 2 ans de travail, donc ça c'est un premier point. C'est sûr que les moyens, c'est d'abord des moyens humains, comme je vous le disais, ce savoir-faire de plongée qui est absolument unique. Ça, c'est l'équipe de Laurent Balesta, c'est Yannick Gentil qui signe les images. Donc il a fallu créer des caissons sous-marins de toutes pièces pour faire ces images. C'est vrai qu'on a tourné avec ces caméras 4K aujourd'hui, mais je pense qu'il y avait aussi un plus-value d'expérience parmi toute l'équipe qui est partie, justement pour avoir vraiment le sentiment d'amener le spectateur très très près de l'animal, par le filmage justement, rentrer dans l'intimité de cette espèce pour que le spectateur ait vraiment le sentiment qu'il y est, quoi, qu'il assiste à tout ça.
Alors comment se passe justement un tournage avec les manchots? Il paraît qu'ils sont faciles à approcher, qu'ils n'ont pas peur de l'homme.
C'est vrai, hein. Ils sont d'accord.
Ah, vous êtes bien renseigné, effectivement.
Vous inquiétez pas, Luc. Je connais bien les manchots. J'en ai jamais vu, hein. Mais...
Non, ils n'ont pas peur de l'homme. Ça, c'est ce qui fait partie de leur charme incroyable.
C'est-à-dire que vous pouvez vous approcher d'eux et comment ils font? Ils vous regardent, ils vous ignorent.
Non, ils sont curieux. Alors, il y a toujours cette distance de sécurité à respecter pour pas les perturber. Ça, c'est quelque chose que vous apprenez à lire très très vite dans leur façon d'être, dans leur langage. Ils vous font comprendre
parce qu'ils sont pacifiques.
Ils sont extrêmement pacifiques. En revanche, si vous vous asseyez sur la banquise ou vous couchez, ils vont avoir tendance à venir vous voir, à tirer votre veste avec le bec. C'est quelque chose d'assez étonnant. Et après, ils vont repartir. Ils vont pas faire plus de faim que ça, finalement. Mais c'est vrai qu'il y a une vraie curiosité partagée. Et voilà, moi, c'est quelque chose dont je me lasse jamais, parce que vous pouvez vous asseoir à côté d'eux et les observer comme ça pendant aussi longtemps que vous pouvez tenir malgré le froid.
Oui.
Et les voir vivre, c'est absolument incroyable.
Bah, les images sont très très près, hein. C'est incroyable parce qu'on a vraiment l'impression d'être dans l'intimité vraiment de ces manchots et les petits sont magnifiques, quoi. Et de voir tous ces petits qui vont dans l'eau. Enfin, on a l'impression qu'on partage leurs sentiments.
Bah, leurs sentiments, je sais pas, mais c'est vrai que quand vous voyez ces petits qui n'ont jamais vu la mer, qui s'approchent comme ça par leurs propres moyens, qui ne sont pas guidés, qui font tout ça tout seuls, sans apprentissage apparent, et que vous les voyez hésiter comme ça, manifestement, ils se demandent bien ce qui va leur arriver. Il leur faut 2-3 jours avant de se jeter dans l'eau, puisqu'il y a ce grand moment de métamorphose qu'on a filmé, que moi j'avais jamais vu, hein, pour des raisons assez simples. En général, ça se passe très loin, sur des banquises inaccessibles, et là on a eu la chance de pouvoir assister à ça en direct et très près de nous. Et c'est sûr qu'on sent l'hésitation, ça fait partie de ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire une proximité avec des comportements humains qui nous permettent finalement de lire leur langage, presque leur émotion, quoi.
Alors, vous avez vu l'évolution des manchots sur 12 ans, Alors, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que les populations sont en diminution ou pas? Est-ce que c'est un oiseau qui est en danger aujourd'hui?
Hélas, oui, il faut s'inquiéter parce que c'est un oiseau qui est très dépendant du cycle de la banquise. Donc, ce système de gel et de dégel de la mer autour de l'Antarctique. Mmh. Et aujourd'hui, le bouleversement climatique fait qu'il y a une énorme dérégulation de ça. Nous, on a eu beaucoup de chance en 2015, octobre 2015, d'avoir une très très bonne année. Malheureusement, cette année est catastrophique. Les deux années précédentes étaient catastrophiques pour des raisons un peu bizarres, c'est-à-dire que l'Antarctique fond énormément, relargue de l'eau douce dans la mer, qui va geler beaucoup plus vite que l'eau de mer, et du coup qui va faire, de manière un peu contre-intuitive comme ça, qui va faire des banquises beaucoup plus importantes, et du coup les manchots, les adultes vont avoir beaucoup plus de distance à faire pour nourrir leurs petits, et leurs petits vont mourir de faim tout simplement. Et aujourd'hui, vraiment, on est en droit de se poser la question, puisque les chercheurs nous disent que c'est une espèce qui est directement menacée à l'horizon de 50 ans, ce qui est rien du tout.
50 ans, oui, c'est rien du tout.
Luc, merci pour ces quelques minutes passées ensemble.
Merci beaucoup. Alors, je vous encourage à aller voir ce magnifique film. Mais vraiment, vous en sortez les yeux émerveillés par ces images de l'empereur, du manchot empereur. Donc, c'est l'empereur. Ça sort mercredi en salle. Allez-y, allez-y avec votre conjoint, votre conjointe et avec vos enfants aussi.
Merci, Luc.
Merci, Luc. Merci, bonne journée.
8h moins le quart. Voilà, un petit bout de la bande-annonce de ce film aussi. On revient dans un instant, Laetitia. Et puis on va s'intéresser à la Saint-Valentin avec Guillaume Ouvry qui nous rejoindra, qui est responsable animalier au zoo de Jurc. Et vous verrez qu'il y a des opérations, on va dire, spéciales Saint-Valentin.
Eh oui.
Dans les zoos.
Eh oui.
Pourquoi pas.
Pourquoi pas.
3216 animaux@rmc.fr. A tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC jusqu'à 8h. Vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
À 7h47, c'est le retour du week-end des experts et c'est les animaux avec Laetitia Barlerin qui m'accompagne encore pendant quelques minutes et puis juste après ce sera Jean-Luc Moreau pour l'automobile, bien évidemment. Laetitia, il est temps maintenant de parler à J-2 de la Saint-Valentin.
Voilà, et nous allons dans le Calvados, en Normandie.
Alors attention, la pression monte, Laetitia.
Au zoo de Jurc, parce que aujourd'hui est organisée une journée spéciale Saint-Valentin des animaux, bien sûr, dans un zoo.
Et,
et nous sommes avec Guillaume Ouri, qui est responsable animalier dans le zoo de Jurc.
Bonjour Guillaume.
Bonjour Laetitia, bonjour François.
Merci d'être avec nous. Alors, comment ça se passe la Saint-Valentin aujourd'hui dans un parc zoologique? Parce que vous proposez une journée complète vraiment autour de ce thème-là.
Oui, effectivement, on fait tout au long de l'année des journées un peu thématiques, de façon à aborder tous les sujets liés au monde animal. Et on s'est dit pour la Saint-Valentin, c'était l'occasion d'en découvrir un petit peu plus sur la vie privée, la vie secrète, la vie amoureuse des animaux.
Alors l'opération, ça s'appelle « Comme des bêtes ». Alors,
autour de la sexualité, effectivement, des animaux. Voilà.
Alors, dans la journée, vous allez accompagner les personnes pour leur expliquer un petit peu la vie sentimentale, on va dire, des animaux. Quel est l'animal qui est le plus romantique chez vous?
Alors, le plus romantique, on va dire que c'est surtout chez les oiseaux. On a notamment chez les grues, qui vont nous faire les grues du Japon, qui vont faire des parades magnifiques. Chez les manchots, je vous entendais parler des manchots tout à l'heure, les mâles ont tendance à faire des petits cadeaux à leur femelle.
C'est chouette,
c'est quoi
ça.
Les petits cadeaux? C'est un petit cœur, un petit bijou?
Des petites bagues, des choses comme
plutôt
ça?
Plutôt des petits cailloux, alors vous allez être un peu déçus. Hein, mais
ça dépend le caillou, parce que moi, un rubis, ça me va, oui. Quoi, un petit diamant.
Là, ce sera des simples galets.
D'accord. Écoutez, Laetitia, il va falloir vous en contenter.
Bon, ok. Et le moins romantique, alors, de votre...
Le moins romantique, alors c'est un peu compliqué à définir, parce qu'il y a toujours des raisons aux attitudes des animaux, à leur comportement. Mais on va dire que ça va se passer plutôt chez ceux qui sont proches de nous, qui vivent en harem, donc chez les primates. Où là, on laisse pas trop le choix aux femelles, en fait. Le mâle s'impose. Voilà.
C'est vrai.
Oh là là. Quel est le
sujet? Il n'y a pas véritablement d'approche romantique. C'est ça que vous voulez dire?
Pas réellement. Une fois que le mâle a pris le pouvoir, effectivement, c'est lui le chef.
Quel est celui qui a la sexualité la plus débridée alors?
Eh bien, là, on va arriver plutôt chez les félins, hein, comme les lions, hein, qui vont avoir au moment de chaleur des femelles.
Ouais, les lionnes, il paraît qu'elles sont très nymphomanes, on va dire.
Demandeuses.
Voilà, tout à fait, puisqu'on a presque une cinquantaine d'accouplements au moment des chaleurs par jour. Hein, donc,
par jour.
Voilà, c'est vrai que les lions sont assez actifs à ce niveau-là.
Ouais. Bah, les pauvres, ils doivent être fatigués après, non, quand même.
Oui, alors c'est des accouplements très courts, hein, je vous rassure, hein, c'est pas des accouplements dans la durée, donc c'est relativement court, c'est quelques secondes, voilà, mais ils sont très nombreux.
Et ben voilà, donc c'est court à chaque fois, mais intense et régulier, donc.
Et voilà.
Ça intéresse Jean-Luc Moreau, je ne sais pas pourquoi, c'est quelques secondes.
Justement, quelles sont les questions les plus souvent posées par les visiteurs du parc concernant les amours des animaux? Est-ce qu'ils en parlent facilement?
Eh bien non, pas du tout, justement. Ils sont assez timides à ce niveau-là. Donc on a des questions sur les bébés, sur l'élevage. Par contre, de quelle façon les bébés sont faits, ça, on a peu de questions à ce niveau-là. Donc c'était l'occasion aussi cette journée d'aborder des sujets qu'on aborde peu souvent habituellement, quoi.
C'est-à-dire que vous allez aller d'enclos en enclos pour expliquer comment ça se passe, les secrets de l'alcôme des animaux, c'est ça?
C'est ça, tout à fait. On a une visite qui est prévue. On va faire des zooms sur certaines espèces un peu emblématiques.
Oui.
Et puis on aura des supports vidéo également en cours de route. Donc et puis on sera là, bien évidemment, pour répondre à toutes les questions là cette fois-ci, puisqu'on interdit la visite aux moins de 18 ans. Voilà, on est prudent.
Ah oui, parce qu'on va quand même aborder des sujets un peu hard, quoi. C'est ça?
Un peu hard parfois. Donc voilà, pour les plus les jeunes enfants, c'est vrai que c'est peut-être pas forcément la visite la plus adaptée.
18 ans quand même, Guillaume, c'est chaud.
Voilà, oui, 18 ans. Bon, alors après, à voir, hein, on verra, on va adapter en fonction du public.
Voilà. D'accord.
Alors, est-ce que, puisqu'on parle de sexualité, de reproduction, est-ce que vous avez des naissances en ce moment?
Alors, en ce moment, c'est encore un petit peu tôt. Nous, les naissances ont plutôt eu lieu au mois de mai-juin.
Oui.
Donc là, on a plutôt les prémices, c'est-à-dire qu'on a les petits combats chez les lémuriens, notamment, là, qui commencent à se bagarrer un peu pour définir qui va s'accoupler avec qui. On a la préparation des nids chez certains oiseaux, comme chez les manchots, notamment, là, qui sont en train de commencer à bricoler leur nid. Donc, c'est plutôt le début, la préparation aux naissances, aux accouplements, quoi.
D'accord. Est-ce qu'il reste des places pour la journée comme des bêtes pour vous suivre et tout connaître des amours des animaux aujourd'hui?
Je crois qu'il reste encore quelques places, mais pas énormément. Hein, donc
il faudra recommencer l'opération mardi alors.
Eh ben voilà, si vraiment on est complet aujourd'hui, effectivement, on pourra prolonger mardi. Voilà.
c'est une façon très originale, en tout cas, de visiter un parc zoologique. Hein.
Exactement.
S'intéresser comme ça à les amours des animaux, quoi. C'est bien.
Voilà, tout à fait. Nous, ce qu'on souhaite, c'est vraiment partager nos connaissances avec le public et être un lieu éducatif. Enfin, c'est un des premiers rôles des parcs zoologiques aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'occasion de faire ça et puis dans la bonne humeur aussi.
Quels sont les animaux?
Il faudrait que vous cryptiez certaines scènes, vous savez, comme cette chaîne qui fait... Enfin, quand c'est un peu trop chaud, quoi.
Voilà, c'est ça. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils vont pas nous attendre pour le faire aujourd'hui. Hein.
Non, mais on va peut-être même les déranger.
Oui, c'est peut-être les prémices, là. Hein. C'est pas encore... Quels sont les animaux emblématiques chez vous?
Alors nous, on a énormément de félins, donc ça va être tout ce qui est guépard, lion, effectivement, lion blanc, girafe. Voilà, on a des animaux assez emblématiques à ce niveau-là. Et puis il y a des loups blancs qui viennent d'arriver aussi, puisqu'on est en train de travailler sur une zone dédiée au froid, donc tous les animaux du froid, donc qui sera peuplé de tigres de Sibérie, de loups arctiques, chouettes, arfans des neiges, etc. Donc tous les animaux qui sont adaptés à un climat comme celui qu'on a un peu en ce moment.
Voilà, c'est le zoo de Jurques dans le Calvados, et vous venez d'ouvrir, hein, je crois, cette semaine ou la semaine dernière.
Oui, tout à fait, on a ouvert la semaine dernière pour les vacances parisiennes, on va dire.
Alors, en tout cas, c'est une excellente idée, et puis surtout, c'est l'occasion d'aller dans les zoos et de voir tous ces animaux.
Oui, alors il y a d'autres parcs qui proposent cette visite autour des amours des animaux pour la Saint-Valentin. Merci Guillaume.
Je vous en prie, bonne journée à vous.
Bonne journée.
Merci. 7h54, Laetitia Barlerin, je vois que la Saint-Valentin vous inspire, puisque vous voulez parler maintenant d'un petit résultat de sondage, c'est
voilà,
ça?
Voilà, une étude Wamiz, vous savez, le site sur l'animal de compagnie, qui a été menée alors du 20 au 27 janvier auprès de près de 5000 participants, hommes et femmes. Alors, bien sûr, c'était des questions hautes. autour de la Saint-Valentin. Alors d'abord, on a posé des questions à des célibataires pour savoir un petit peu, l'animal de compagnie. Est-ce que c'est facile de draguer avec un animal de compagnie, par
exemple ? Est-ce que c'est facile de draguer avec un animal de compagnie ?
Eh bien, la moitié des hommes célibataires et 30% des femmes célibataires ont déclaré qu'elles estiment que draguer est beaucoup plus facile quand on a un animal de compagnie.
Mais c'est évident.
Mais c'est évident.
Mais c'est évident, Laetitia.
Et même, et ça, je m'adresse aux célibataires, il faut savoir que 70% des hommes ou des femmes célibataires trouvent plus attirant des personnes qui possèdent des animaux. Donc voilà, si vous voulez draguer, trouver votre moitié, il vaut mieux aller promener son chien, hein, ou décrire sur son profil, vous savez, sur certains sites internet de rencontres, dire je possède un animal de compagnie. Et rien que ça, déjà, vous avez, pour 70% des femmes et des hommes célibataires, vous avez un plus, puisque vous avez un animal de compagnie.
Non, mais c'est vrai que vous avez un petit chien, vous vous baladez dans le parc, là, mais...
Je fais beaucoup de rencontres.
Homme, mais c'est incroyable, non? Et alors, vous aussi, Laetitia, alors j'imagine.
Mais en plus, on a une image du propriétaire de l'animal positive, puisqu'il aime les animaux.
Ça, c'est qu'il est trop mignon, il doit être gentil, etc.
Et alors, cette enquête a été plus loin.
Après, il y en a peut-être qui sont malins, qui s'en foutent des animaux et qui justement essaient...
Il loue des animaux,
c'est ça. Il loue des animaux ou alors il emprunte au voisin, la voisine ou au pote.
Après, on le voit très vite. On voit très vite si la personne aime ou n'aime pas les animaux. Mais c'est vrai que c'est un plus quand même.
Pas forcément. Imaginez que vous ayez un cochon.
Bonjour Jean-Luc Moreau.
Bonjour messieurs, dames. Jean-Luc Moreau, imaginez que vous ayez un cochon.
Qui est un spécialiste quand même. Ouais. C'est pour ça que...
Un cochon domestique.
Un cochon domestique.
C'est un animal de compagnie, on peut l'aimer, et je suis pas sûr que ce soit un plus.
Alors, c'est pas vrai.
Non, mais attendez, un petit cochon. Alors, évidemment, si vous avez une énorme cochon. Truie, mais un tout petit cochon, c'est tellement mignon. Mais vous allez faire un carton, je suis sûr.
Jean-Luc parle toujours des cochons, je ne sais pas pourquoi.
Moi, je sais pourquoi.
Psychanalyser
sais pourquoi.
Une autre information de ce sondage aussi, on s'est intéressé aux personnes qui étaient déjà... en couple, et on leur a demandé, est-ce que vous préférez passer la Saint-Valentin avec votre conjoint ou avec votre animal de compagnie? Et alors, un quart des femmes ont répondu qu'elles préféraient passer la Saint-Valentin avec leur animal de compagnie, quand même. Un cinquième un homme sur cinq préfère passer la Saint-Valentin avec son
animal
de compagnie
qu'avec sa femme.
Plutôt qu'avec sa femme. Eh ben oui, parce que l'animal de compagnie, lui, il est fidèle et lui ne vous laissera jamais tomber.
Non, et puis quand il y a un match de foot, pour par exemple la Saint-Valentin, il pose pas de problème, lui. Non, mais c'est vrai. Et c'est ce qui va se passer là. Le 14, il y a un grand match, donc ça va être chaud, les amis.
Ça va être chaud.
Cette Saint-Valentin, ça va être compliqué.
Et il y a quand même 20% des propriétaires de chiens et de chats qui vont offrir un cadeau à leur animal de compagnie pour la Saint-Valentin.
Eh ben dites-moi. Voilà, sondage Wamiz qu'on peut retrouver sur le site de Wamiz.
Exactement.
Laetitia, c'est sur ces bonnes paroles qu'on va se retrouver la semaine prochaine.
Et oui, je vous souhaite une très bonne semaine à tous, une bonne Saint-Valentin, bien sûr. Là, il y a la pression qui monte.
Vous êtes prêt pour la Saint-Valentin, Jean-Luc, ou pas?
Je ne savais même pas qu'il y avait la Saint-Valentin.
C'est bien pour ça que j'en parle aujourd'hui.
C'est la classe.
Pour vous,
je savais qu'il y avait la Saint-Valentin.
C'est avec Jean-Luc Moreau, on l'appelle le bulldozer.
Je ne peux pas oublier la Saint-Valentin puisque je me suis fait écraser par une voiture un 14 février. Donc, vous voyez, forcément, ça marque.
Les trucs mémotechniques. Ah bah oui, moi, la Saint-Valentin, je connais, je me suis fait écraser par une voiture. D'accord.
Exactement ça.
C'est parfait. Jean-Luc Moreau, dans un instant. Alors, ça va pas être très sexy, les sujets qu'on va évoquer, mais tout du moins, ils sont importants et intéressants. La fin du diesel.
Est-ce la fin du diesel? Ouais, une vraie question.
Évidemment, toutes vos questions auto au 32-16 juste après la météo et les infos. À tout de suite.
Un bon dimanche.
Retrouvez le week-end des experts en podcast sur rmc.fr.